radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Guillaume se lève et s'assoit sur le rebord du lit. Lupin lui dit « C'est sale ici, il faut faire le ménage. » Guillaume ne dit rien. « Je suis venu te dire, c'est que j'en ai assez. J'ai été suffisamment, disons, tolérant pendant un certain, pas mal de temps. Maintenant, ça a assez duré. Tu ne fais rien. Tu traînes je ne sais où. Ça ne peut pas durer comme ça. Où en sont tes études ?» Dieu lui dit, « Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va ?» Je suis renseigné. Je suis bien renseigné. Tu ne fais rien. Et regarde-toi. Tu me fais honte. Tu ressembles à un zombie. Tu as vu la tête que tu as? Tu me fais honte. J'ai honte d'avoir un fils comme toi. Guillaume, qui est la mauvaise à cause qui n'a pas eu sa dose, lui dit « Et moi aussi, j'ai honte de toi. » Donc un furieux, le gifle. Guillaume veut se rebiffer. Son père lui attrape le bras. « Tu devrais avoir honte de toucher, de vouloir te battre avec ton père. Je vais t'apprendre, moi. » Et tout en le maintenant, il défait sa ceinture. Guillaume essaye de se dégager de son emprise. Il lui crie, « Non, tu n'as pas le droit, je suis un homme. » Petit morveux, va. Toi, un homme, parce que tu as couché avec n'importe qui, tu te crois un homme ? Guillaume essaie de se dégager, mais le père le plaque bien sur son lit, élève la ceinture et lui dit, « Sans moi, tu n'es rien. Rien. Tu entends ? C'est moi qui vais vivre. Oui, moi. Tu as beau me dénigrer, mais c'est la vérité. » Guillaume lui crie, « Lâche-moi ! Non ! Je vais t'apprendre à me respecter. Oui. Je vais t'apprendre à me respecter. Sans toi, sans moi, tu n'es rien. Tu m'entends ? Tu n'es rien. » Guillaume lui crie, « C'est faux !» Son père lui dit, « Tu vas voir. » Il maintient bien d'une main sur le lit, Guillaume donne des coups de pied, gigote. Mais il est trop maintenu. Il est maintenu des deux bras, au-dessus de la tête. L'autre lève la ceinture et lui donne des coups. Un, deux coups, deux coups. Trois coups, quatre coups. Guillaume, plein de douleur et de rage, salaud, salaud, salaud. Son père lui crie, qui est le maître? Qui est le maître? Il est furieux, il tape, il tape. Puis, épuisé, il s'arrête. Lorsque Guillaume, qui pleure sur son lit. Son père remet la ceinture à son pantalon et lui crie, « C'est moi qui te fais vivre. Tu es incapable de vivre sans moi. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. » Et il quitte la pièce. Sa femme est derrière la porte tremblante. Elle n'a pas osé entrer. Peur d'envenimer les choses. Elle dit, « dû y aller trop fort. Il hausse les épaules. C'est la première fois que je le fais. J'aurais dû le cravacher depuis longtemps. À cette merdeux, incapable de rien. Toujours enfermé dans sa chambre. À sortir pour aller je ne sais où. Non, je t'interdis d'aller le voir. Laisse-le, c'est plus un bébé que l'on cajole pour un oui ou un non. Guillaume reste allongé, pleure de rage. Il veut tuer son père. Il se dit, Arlette a raison. Ils me tiennent pas le fric, ces fachos. Je suis son esclave. Il m'a battu comme un esclave. Il crie, je le déteste. Il a mal de partout, mais sa fureur est tellement grande qu'il prend une bouteille qui est à terre et la jette sur la porte. Le vin fait une immense tache sur la porte. Il a la tête en feu, veut se libérer de ses chaînes. Il ne veut plus être un esclave. Il veut être libre et prouver à ce con qui peut vivre sans lui. Oui, sans lui. Il en est bien capable. Il entend frapper à la porte. Il ne répond pas. Guillaume. C'est sa mère. Il lui dit, non, ne rentre pas. Il ne veut pas la voir. Parce qu'il a entendu son père lui parler. Elle n'entre pas. Il se dit, elle doit être du côté. De moi. Et non de lui. Elle est de son côté. Il n'y avait pour elle. Je ne veux plus la voir. Elle, elle est triste et souffre. Parce qu'elle croit qu'elle est du côté de son mari. Elle aimerait le lui dire et la honte. Je n'ai pas intervenu. Elle a peur qu'il est trop mal. Mais elle ne peut pas le voir. Elle a peur qu'il pense qu'elle est du côté de son mari. Elle lui dira lorsqu'il sera plus calme. Pour le moment, il faut le laisser en paix. Guillaume finit par se calmer, reprendre ses esprits. Décide, c'est de quitter sa prison. Regarde ce qu'il a comme argent. Ça fait pas beaucoup. Et pour commencer, se déshabille. Et va dans la salle de bain pour se laver. Il se regarde dans la glace pour voir un peu comment il est. Il a une balafre au visage, mais ça peut aller. Les autres coups ont été pris sur la poitrine. Ça ne se voit pas. Prend sa douche. S'habille, Une fois habillé, il quitte sa chambre avec un petit sac de voyage. Il est tard. Tout le monde dort. Sort de la maison. Et quitte la propriété. Ne sait où aller. Peu de passants dans les rues. Se dirige vers la gare de Perrache parce qu'il se dit que si on peut dormir à l'hôtel, il pourra dormir à la gare. Voit vers la gare, dans une petite rue misérable, l'entrée d'un hôtel. Non, il s'appelle pas Hôtel de la Gare, parce que ça a déjà été pris. Alors, il a le nom tout aussi con d'Hôtel Moderne, qui n'a rien de moderne, surtout par sa façade, qui est celle d'un immeuble lugubre. Le néon rouge au-dessus de la porte rend la chose encore plus lugubre. L'entrée est étroite. Il y a un petit hall avec des fauteuils en sky noir genre 1960. Avec une table blanche pleine de magazines idiots. Une banque. Le tout éclairé avec une lampe de bureau genre jaune sale. À la banque, il y a une grande bonne femme qui tricote. Elle a les cheveux blonds à chignon, un gros visage de cochon, une blouse grise à pois noirs. Guillaume intimidé parce que c'est la première fois qu'il va à l'hôtel seul. Et c'est comme ça quoi. Elle lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui demande timidement « C'est pour une chambre. Je m'en doutais. C'est pas pour des cigarettes. » Que vous êtes venu ici. Alors la chambre, c'est pour combien de jours? Là, il ne s'est pas posé de questions, il ne sait pas quoi répondre. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est encore que ça? Il lui dit, quelques jours. Elle lui dit, bien, disons une semaine, ça va? Oui. Il est tout rouge. Elle prend sur un tableau une clé et dit, c'est la chambre 5, au premier. Il prend la clé. Merci. Elle voit qu'il ne bouge pas. Elle soupire et dit, Bien, je vais vous mener. Elle le mène. Un chat noir la suit. Monte les escaliers qui ont été recouvertes d'une moquette unie rouge, enfin qui a été rouge. Les escaliers sont étroits. Dans un couloir avec des tas de portes en bois, lumière jaune sale. Elle ouvre la chambre. C'est ici. Éclair. Voilà. C'est une petite pièce rectangulaire tellement triste que le studio d'Arlette, c'est Versailles. Un lit en face à une place avec une couette rouge, une table de nuit avec une lampe de chevet en forme de tulipe. Ça doit être une œuvre d'art. Une armoire à une porte 1930. Les meubles sont 1930 sans style. Il y a un lavabo. Elle dit, les WC sont sur le palier. On est tout de même marqué hôtel moderne. Elle lui dit, ça va? Merci. Pose le sac sur son lit et voit que c'est un beau sac de pluie en cuir et que ses vêtements sont de bonne coupe. Elle sait à qui elle a affaire. Se dit, il doit être perdu. Elle le quitte avec son chat qui la suit. Ça sent le renfermer, la poussière, la javel. Il va ouvrir la fenêtre. Elle souffle difficilement. Il se dit qu'on ne doit pas l'ouvrir souvent. On voit la rue étroite. Ça donne juste sur l'immeuble d'en face. Lugubre. Souffle un peu et ferme la fenêtre. Il préfère ne pas voir. Et puis il peut être vu par la personne d'en face. Ouvre son sac. Et prend son pyjama bleu roi en soie. Se déshabille. Et va se coucher. Les draps sont rêches, vieux. C'est pas de la soie. Il a chaud. Et puis dormir dans un lieu qu'il ne connaît pas, c'est pas facile. Il y a le bruit, les pas dans le couloir, les chuchotements, et peut-être un hôtel de passe. Il a peur, c'est qu'on entre dans sa chambre. Lorsqu'il se réveille, après un petit somme, il était réveillé par un bruit, je ne sais pas quoi. Et il s'est retrouvé au milieu des ombres qu'il ne connaissait pas. Puis il se souvient de son père. D'ailleurs, les coups laissés sur sa poitrine et au visage, la douleur de ses coups ne peut pas lui faire oublier ce salaud. Ça lui ramène sa rage. Tu vas voir si je t'appartiens, moi. Si je suis bon à rien, moi. Je suis un homme libre, moi. Mais très vite, sa furie devient peur. Peur de ce lieu. Peur qu'on vienne le trouver dans son lit. L'auberge rouge de Pierre Veille. il en reste toujours des traces dans les souvenirs des gens. Et puis, la porte d'eau demain. Demain, que va-t-il faire? Il réussit à s'endormir. La fatigue l'a aidé à s'endormir. Se réveille tout doucement, tout doucement. Voit un bout de tapisserie, un peu doré, qu'il croit être celui de sa chambre au pays bleu. Pays bleu et vert. C'est son petit garçon et a tout oublié. Un bruit l'a réveillé complètement. Il se souvient où il est. Il est à Lyon, dans cet hôtel minable. Le dégoût, la peur et tout qui lui revient. Mal de vivre le prend. Il se demande ce qu'il va faire dans cette ville hostile. Se lève, se sent perdu. Que va-t-il devenir? Et puis il a très peu d'argent. Mais ce n'est pas la question d'argent qui le tracasse. Mais lui, que va-t-il devenir? Si son angoisse vient, il est perdu, il ne pourra rien faire. Puis il se dit, Arlette va sûrement m'aider. Il se sent mieux. Va au lavabo pour se raser. On a frappé à la porte. Oui, entrez. C'est la concierge de l'hôtel. Elle dit, je voulais vous demander si vous voulez prendre votre petit déjeuner ici. Il lui dit, oui, merci. Elle s'en retourne, en ayant bien regardé. Lui finit de se raser et s'habille. Il attend, assis sur le rebord de son lit, le petit déjeuner. Après, je téléphonerai à Arlette. Elle va être surprise. Elle, qui me traitait de sale petit bourgeois, fils à papa, maintenant c'est fini. Entrez. C'est la vieille avec le petit déjeuner. Elle pose ça sur la petite table. Voilà, monsieur, mais je vous laisse parce que je m'excuse, mais on ne sait pas. C'est l'heure de où il y a du monde. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. On sait à qui l'on a affaire, vous savez. Guillaume lui dit, j'aimerais se téléphoner. Oui, bien sûr. Vous descendez, vous pouvez. Bon, je vous laisse. Il est l'heure de mes clients. Ils commencent à arriver. Elle le laisse. Guillaume regarde à table ce qu'il y a. Pour prendre le petit déjeuner, il y a de la confiture dans des petits récipients, d'une part en plastique, du beurre deux croissants et une tasse de café. Le café est chaud, n'a pas beaucoup de goût. Le croissant est huileux. La confiture, c'est une pâte compacte. Guillaume se demande ce que va être sa première journée. Il va sûrement aller chez Arlette. Elle voudra qu'il loge chez elle. Ah, ça le rassure, parce qu'il est un peu peur seul. C'est une fille bien, Arlette. Elle va l'aider. Après avoir pris son petit déjeuner, qu'il a trouvé pas mauvais, parce que ça le change de celui de la maison. Puis ça fait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Sa mère, qu'elle se débrouille avec son père. Elle n'a pas cherché à l'aider. Elle a laissé le battre. Quel salaud! Il a la gorge serrée. Ça lui fait mal. Parce que sa mère, il l'aime. Il est triste qu'elle ne soit pas de son côté. Soupire, se lève et finit de s'habiller. Puis sort. En bas, il retrouve la grosse truie qui lui sourit. Lui tend le téléphone de la banque. Merci. Je n'ai rien, vous savez. Assez, on sait à qui on a affaire. Il prend le téléphone, se dit qu'elle va tout entendre. Garce. Nous allons présenter dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.